RCF.
Je le veux en but. Ici la Yarre Nouvirène, ou Paneuf en Nouvelle à Corseul.
Regard sur Kerdévote, une cathédrale de campagne avec Yves-Pascal Castel. Sur RCF Finistère, avec vous Yves-Pascal Castel, nous continuons de découvrir cet écrin dans la verdure du côté de Derghe-Gaberik. C'est cette chapelle de Kerdévote, cathédrale de campagne. C'est le titre d'un livre qui est paru au troisième trimestre 2018. Dans la dernière émission, avec vous Yves-Pascal, nous avons évoqué, on peut dire, l'œuvre majeure de l'édifice, qui est ce rétable flamand. Et ce rétable, nous allons continuer de nous y arrêter au cours de cette sixième émission. Nous allons parler saccage, restauration et aussi mise en valeur de ce grand rétable, Yves-Pascal.
Eh oui, c'est à Tanguy Daniel, président honoraire de la Société archéologique du Finistère, que l'on doit les pages concernant, ou les premières pages concernant le saccage du rétable de Kerdévote. C'était le 7 novembre 1973, le saccage fait dans la précipitation. On voit bien que le travail a été effectué par des individus brutaux et maladroits. Dans le retable, par exemple, après avoir brisé la vitre, ils ont dérobé 11 personnages dans 4 scènes. La nativité, dans l'adoration des mages, dans la dormition de la Vierge et dans les funérailles de la Vierge. Ajoutons à cela aussi 4 personnages du baptême du Christ qui ne dépendaient pas de notre fameux retable flamand et disposés dans le fond de la chapelle contre le mur ouest et dans le chœur. Il y avait aussi 4 statues et 2 chandeliers de bronze. Ah, ce fut une grande désolation pour tous. Et aussi, par exemple, je le choisis par monsieur Pierre-Marie Ozas, inspecteur principal des monuments historiques. Il avait justement 2 mois auparavant visité la chapelle avec un personnage, le comte Joseph de Bordegrave d'Altena, qui est conservateur en chef honoraire des musées royaux d'art et d'histoire de Belgique.
Le recteur de la paroisse a si fait part de sa tristesse.
Ah oui, l'abbé Jean-Louis Morvan, recteur d'Derghe-Gaberik, fait état du triste vandalisme. Monsieur, il raconte, monsieur Henri et moi fûmes avertis que quelque chose de bizarre avait dû se passer à Kerdévote. Une dame avait été surprise, une dame qui passait par là, elle avait été surprise de voir la porte du fond grande ouverte et des statuettes éparpillées sur la pelouse autour de la chapelle. Elle nous a évidemment pas pénétré dans la chapelle et préféra nous téléphoner.
On peut dire qu'il s'agissait d'un spectacle tout à fait pitoyable qui s'est offert à leurs yeux.
Ah oui, et continue le recteur, la vitre protectrice avait été brisée, permettant aux vandales de s'approprier 11 personnages, tandis que d'autres gisaient sur le sol de la chapelle, sur la pelouse, comme elle l'avait vu, et certaines même mutilées. Et le passage d'une voiture a dû surprendre nos hommes, sinon c'est toutes les statues, une 60aine, qui auraient disparu. Les voleurs se rattraperont en volant la même nuit 7 statues dans une chapelle du Morbihan, une chapelle de Prisiac. Seules 2 d'entre elles vont être par la suite être retrouvées. À Kerdévote, la plus belle statue, celle de la Vierge contemplant dans une attitude d'adoration son enfant nouveau-né couché sous le pan du manteau de la mère. Or, un manteau de ce pan est resté après les voleurs. Sur ce morceau se trouve la moitié du corps de l'enfant Jésus, pieds, ses pieds et une partie de son tronc. Le gang qui avait séjourné à Quimper va être arrêté. Et grâce à eux, son cerveau, il y a toujours quelqu'un qui mène la chose, le cerveau de ce gang va être découvert. La police judiciaire va trouver chez lui une vraie caverne d'Ali Baba. Et un gendarme vint 6 mois après le vol montrer des centaines de photos d'objets volés. Et continue le recteur Jean-Louis Morvan dans sa chronique, « J'y découvris, entre autres, l'ange de la nativité, le soldat qui insultait la Vierge, mais ma déception fut grande de ne pas revoir la Vierge à l'enfant et Joseph, les deux rois mages, les deux apôtres en prière devant le corps. »
Sur RCF Finistère, nous sommes à Kerdévot et nous parlons du retable flamand, retable qui a été vandalisé en 1973. Il va falloir maintenant penser à sa restauration, Yves Pascal.
Le premier problème qui se posa fut celui de l'emplacement de l'œuvre lorsqu'elle serait remise en état. Tanguy Daniel énumère les solutions qui furent envisagées alors. La sacristie, l'abrita pour un temps. Mais un problème de toiture ayant surgi, Pierre Quignoux, conservateur des musées de Quimper, va l'héberger au musée de Quimper. Par la suite, Pierre-Marie Ojas pensa à un trésor projeté pour Saint-Corentin, la cathédrale de Quimper, où se dessinait cette création de trésor. On parla de l'ossuaire de l'église paroissiale de Derrière-Gabéric. Et il fut aussi jugé trop exigu pour la présentation dans l'église paroissiale, un temps envisagé. Ça, on l'a abandonné, parce qu'il aurait fallu déménager un retable du rosaire déjà existant dans l'église paroissiale. Alors il ne restait plus qu'une solution, le retour tout simplement à Kerdévot. Et au-dessus du maître-autel, comme le montraient les anciennes photographies prises il y a des décennies et des décennies. Certes, quelques statues avaient été retrouvées à Bruxelles par les services de la police judiciaire. Monsieur Emery, restaurateur au Fawet, va s'occuper de la caisse où étaient présentées les scènes. La réinstallation faite, vaille que vaille, on pouvait replacer dans la chapelle le 19 avril 1979, 6 ans après son saccage, la fameuse œuvre flamande.
Mais il va se passer quelque chose de nouveau dans la nuit du 22 au 23 novembre.
Oui, la nuit qui suit, du 22 au 3 novembre de la même année, 1979, un nouvel essai va être opéré sur notre immeuble. La vitre blindée anti-balles va tout de même résister au coup de masse asséné par cette nouvelle attaque de vandales. Et à cette occasion, la conservation des antiquités et objets d'art, à qui l'on proposait de mettre l'œuvre en un autre lieu, déclara « Que dirait-on si le retable de Kerdévote était exposé au musée de Rennes ?» On contribuait ou contribuait à accroître la richesse du Louvre. Et de ce point de vue, Tanguy Daniel terminait son article en notant que le cas d'Hergé Gaberic était exemplaire.
Sur RCF Finistère, regard sur la cathédrale de verdure de Kerdévote, à Hergé Gaberic, en particulier son retable flamand, dont nous avons parlé des péripéties, actes de vandalisme, restauration. Alors la dernière restauration, on l'a dit, on est en 1979, puis un nouvel assaut dans la nuit du 22 au 23 novembre. On va donc dire, Yves Pascal, que l'histoire de la restauration n'est pas encore terminée.
Oui, l'ouvrage récemment publié sur Kerdévote comporte un article signé Jean-René Blaise, membre de l'association Arcae et de Marie-Cécile Cusson, restauratrice à l'atelier régional de restauration de Kerguéhennec à Bignan, dans le Morbihan. Et le titre exact de ce chapitre de Blaise est « Restauration du retable de Kerdévote, une étape dans la connaissance du joyau ». En effet, au cours de l'été 2005, les autorités compétentes avaient constaté sur le fameux retable la présence de moisissures et de traces d'insectes. Ainsi, ce fut en novembre 2010 que Pierre Floch et Jérôme Séré transportèrent, entourés de mille soins, le retable de Kerdévote à l'atelier régional de restauration situé à Bignan, dans le Morbihan, à 30 km de Vannes, sur le site de Kerguéhennec.
Et puis, on peut dire maintenant que la restauration a été effectuée en deux temps.
Oui, un premier temps de décembre 2010 à février 2011, il fallait un nettoyage, lutter contre les altérations biologiques, avec des pinceaux à fibres douces, avec des aspirateurs, pour dégager les vrillettes et les insectes qui se nourrissent de larves des vrillettes. Et on a dû placer le retable, tenez-vous bien, dans une poche sans oxygène pendant 28 jours à une température constante de 21 degrés centigrades. Alors il faut quand même résumer. La seconde phase consista, entre autres, dans le retrait de planches mises lors des restaurations précédentes, puis des éjections dans les bois avec des produits spécifiques, sans compter le reste. On n'en finit pas. Un comité scientifique réunissait alors une conservatrice du musée du Louvre, une autre de l'Institut royal du patrimoine artistique de Belgique et la conservatrice de la DRAC en Bretagne, la Direction régionale des affaires culturelles. On fit aussi appel au Centre de recherche et de restauration des musées de France. Tous les éléments déposés ont été alors radiographiés sur rayon X. On voit que rien n'a été négligé. à cette époque-là.
Alors on peut dire que concernant ce retable de guerre dévote, ce retable flamand, des découvertes importantes ont été faites au cours de ces examens, Yves Pascal.
Ben oui, l'examen du retable a aussi permis de localiser plusieurs marques, des marques laissées par les sculpteurs d'origine pour distinguer le travail d'ateliers différents. Ce sont des mains simples ou doubles, c'est la lettre M, on voit aussi une croix comme marque de, j'allais dire, de métier, quoi. Et les amateurs de précision pourront voir dans le livre publié par Arcae toute une série de photos qui les feront entrer dans le domaine quelque peu mystérieux de la création des sculptures anciennes. Ainsi, après 2 ans d'absence, le retable de Ker Dévote pouvait de nouveau arriver à attirer les visiteurs dans la cathédrale de campagne, tout en reconnaissant avec les auteurs de l'article qu'ils n'avaient pas encore livré tous ses secrets.
Nous continuons de regarder le mobilier de la chapelle de Ker Dévote, Notre-Dame de Ker Dévote. On a parlé du retable flamand. Et donc, en plus de ce retable, eh bien, il y a une deuxième œuvre, une deuxième sculpture qui est grandiose, Yves Pascal, par sa facture, ses dimensions. Et peut-être qu'elle est trop oubliée, c'est la statue de Notre-Dame de Ker Dévote.
Et heureusement que Gilda Durand s'est attachée en de nombreuses pages à cette statue. En Etrun Varia Ker Dévote désigne une Vierge à l'enfant assise sur un trône imposant. Elle était jadis posée au-dessus même du retable brabançon qui a été restauré. Désormais, elle s'appuie sur la pile nord de l'arc médian de l'édifice. Elle constitue ainsi la première œuvre visible pour qui entre par une des portes sud de la chapelle. Et Gilda Durand, qui est historien de l'art aussi, de s'étonner à juste titre que cette sculpture n'ait jamais été étudiée ne soit que rarement reproduite. La Madone de Ker Dévote trône entourée d'anges. Elle correspond au thème iconographique de la Maesta en faveur à la fin du Moyen-Âge et à la Renaissance. Ici, de la Madone alors, ou du trône qui la porte, on ne sait qu'est-ce qui est le plus imposant.
Alors on peut dire que le trône de cette Madone de Ker Dévote affirme le triomphe de sa maternité.
Ah oui, ce n'est pas le siège modeste de la sagesse qu'il était quelques siècles plus tôt. Ici, c'est le symbole de la gloire, de la puissance, non pareille, de la Mère de Dieu. Il est devenu dans le thème de la Maesta, dont on a dit le mot plus haut déjà. Cette architecture qui sanctifie une scène quotidienne en encadrant une mère, une vierge prise parmi les autres vierges, est à son tour enveloppée par des figures enfantines. Une nuée d'angelots envahit l'édifice architectural, prenant pied sur les colonnes, sur les pilastres, sur la voûte, afin de pendre des festons, de répandre une céleste musique et faire auréole à une scène pourtant bien terrestre et familière. Quoi de plus naturel qu'une maman assise tenant un poupon sur son giron, et comme ici, l'enfant étend les bras et déjà plein de vitalité, il s'agit plus de le maintenir contre sa mère que de le tenir. Et Gilda Durand continuera son analyse d'historienne l'art. Et nous sommes dans une époque où l'observation réaliste de la nature dans sa quotidienneté s'est transformée en naturalisme. Un naturalisme presque profane, à vouloir d'être touchant. Ce naturalisme poussé présente l'enfant totalement dévêtu, affirmant ostensiblement sa nudité et son sexe. Les angelots sont tous, pour la plupart aussi, totalement dévêtus. Mais pour que la scène ne soit pas totalement désacralisée, dans le dossier du trône se devinent quatre personnages sacrés, parmi lesquels on reconnaît facilement Moïse, qui présente les tables de la loi, le roi David avec sa harpe. On est ainsi la maesta dans une période, avec la maesta dans une période où le style gothique cède la place lentement au style renaissant. Il était à noter que cette œuvre majeure n'a pas d'équivalent dans les productions bretonnes. Alors, œuvre d'un artiste autochtone formé à l'étranger, œuvre d'importation, la question va demeurer posée. Gilda Durand présente ici une production, enfin, pressant, une production italianisante. La rondeur des visages, le drapé dans son rejet des cassures, la forme générale renvoie au monde transalpin.
Alors, on le voit notamment dans le voûtement du trône monumental en forme de coquille Saint-Jacques.
Oui, en forme de coquille Saint-Jacques. On connaît bien le tableau de Botticelli et de sa Vénus. Ainsi, pour Gilda Durand, l'origine italienne de l'atelier où se sera formé le sculpteur responsable de Annitrun Varia Kerdevot ne fait aucun doute. Et il est fort vraisemblable qu'il s'agisse aussi d'une œuvre d'importation.
Alors, qu'en est-il de la date maintenant ?
Ah, le style du costume renvoie, par certains détails, à l'allégorie du printemps peinte en 1460 par Cosme Tura, un homme de Ferrare, et son œuvre est conservée à la National Gallery de Londres. On peut donc avancer comme datation de notre Vierge la seconde moitié du XVe siècle. Cela coïnciderait avec la date de construction de la chapelle de Kerdevot elle-même, ou la reconstruction. On voit dans le grand intérêt de cette œuvre inédite, du fait de sa beauté, mais aussi de son antiquité et de l'ordre stylistique de son auteur, on voit donc quel est son grand intérêt. Contrairement aux idées reçues, admises sur la lenteur de la pénétration du goût italien en France, en Bretagne, cette statue montre que la province a très tôt importé des objets ou des styles de provenance ultramontaine, c'est-à-dire d'au-delà des Alpes. Pour être plus clair, ajoutant qu'un sculpteur local, Guillaume Saliou de l'Estonon, il est mort, je crois, en 1990, avait fait en 1955 pour l'église d'Ergué-Gavéric, sa paroisse, une réplique de notre grande statue de Notre-Dame de Kerdevot.
Yves Pascal, merci beaucoup. Nous nous retrouverons à Kerdevot à nouveau la semaine prochaine. Merci à Guillaume Thiénot qui assurait la réalisation technique. À très bientôt, Kenavo.